Bon. Est-ce que vous n'êtes pas trop perdu? Ça va à peu près? Pas du tout. Bon. En tout cas, je rappelle que depuis l'an 1000, ou à peu près, nous sommes rentrés dans l'histoire. On a dû faire pour se battre, pas encore pour faire la cuisine, mais ça va venir. Et on commence à avoir l'écriture. Et on a un premier essai d'unification de ces tribus, il y en a une douzaine, d'Israël par le chef de guerre David, qui a fait de Jérusalem, et c'est un choix stratégique assez génial, sa capitale. Et cette Israël unie, si on peut dire, va demeurer comme ça une cinquantaine d'années avec le descendant, le fils de David, Salomon, en tout cas c'est ça qu'on nous raconte, qui sera un modèle de roi qui sait écouter Dieu et de sagesse, mais qui est perverti à la fin de sa vie par ses femmes. Il n'avait qu'à pas en avoir 300. Voilà. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que ce temps très bref qui a représenté le royaume de l'ensemble des tribus d'Israël, très bref, y a-t-il eu une véritable unité, ou en tout cas un temps de relative accord, est resté comme une espèce d'idéal plus jamais atteint et à retrouver un jour. Et on verra dans l'histoire tel ou tel roi qui va essayer de recréer cet Israël. On n'y arrive pas, mais chez les prophètes, la promesse de Dieu a souvent pour but de dire « vous allez être réunis bon. ». En réalité, ça s'est tout de suite cassé la figure. Ça s'est cassé la figure d'emblée parce que David et Salomon viennent du sud et que les tribus du nord ont toujours été un peu se considérant comme maltraité, pas suffisamment honoré par ces princes ou ces rois ou ces chefs qui venaient du sud. En plus, elles étaient plus riches, et ça, ça a toujours été, que celles du sud, et donc elles avaient l'impression qu'on les exploitait au niveau de l'impôt pour nourrir les autres, ce qui est tout à fait déplaisant. Moyennant quoi ? Dès la mort de Salomon, autour de 930, vous avez un récit, là aussi, qui a été fait beaucoup plus tard, dans 1 roi 12, mais vous avez un récit de la séparation, de la sécession que font les tribus du Nord, le fils de Salomon, Roboam, restant au pouvoir dans les tribus du Sud, et un de ses généraux, Jéroboam, pour compliquer l'affaire, prenant le pouvoir au Nord. Ça marche ? Séparation. Là, il y a quelque chose qui est difficile. C'est que ça va faire deux petits royaumes, ridiculement petits, mais deux petits royaumes qui vont quand même avoir leur indépendance et qui entreront éventuellement en guerre l'un contre l'autre. Il ne faut pas rêver. Les frères, ça se bat. Deux petits royaumes qui, tous les deux, viennent d'un royaume, d'un ensemble qui a pour nom Israël, autre nom du patriarche Jacob. Il a pour nom Israël. Or, le royaume du sud, où reste la descendance de David, va prendre le nom de Juda, parce que David vient de la tribu de Benjamin, qui est lié à la tribu de Juda. Et on va parler du royaume du sud ou du royaume de Juda. Tandis que le royaume du nord va garder ce nom qui vient du nord, parce que Jacob vient du nord, de ce nom d'Israël. Si bien que le mot Israël dans la Bible, et notamment chez les prophètes, surtout chez les prophètes, est très ambigu, parce que c'est tantôt l'ensemble, tel que l'ont rêvé, ou peut-être réalisé David et Salomon, mais tel qu'on le rêve et tel que Dieu le promet, et c'est plus souvent le royaume du Nord par opposition au royaume du Sud, Juda. Et on opposera ou on mettra en parallèle Juda et Israël, ça va ? Et là, c'est un peu un piège, parce qu'évidemment, vous n'avez pas de petit machin qui clignote pour vous dire lequel des deux c'est. C'est le contexte. Voilà. Là, il y a une ambiguïté de vocabulaire. Alors, après, chacun de ces deux royaumes a mené sa vie, et je vais essayer de m'attarder sur l'un et puis sur l'autre. Dans le petit schéma que j'ai essayé de faire, je manie très mal le PowerPoint, et alors mon schéma, il vaut ce qu'il vaut. Hein. Peu importe, on affinera plus tard. Dans le schéma que j'ai essayé de faire, vous voyez clairement au moins que le royaume du Nord a duré beaucoup moins longtemps que le royaume du Sud. 200 ans, en gros, pour le royaume du Nord, 330 ou 340 ans pour le royaume du Sud. Ça fait quand même une vraie différence. Le royaume du Nord a été un royaume, donc, avec le plus grand nombre de tribus, une dizaine, réuni par un général de Salomon, Jéroboam, et qui a connu immédiatement une succession, on va dire, de mini-coups d'État, en tout cas de coups d'État, avec des bagarres de clans et d'assassinats au sommet des clans. Voilà. Ils ont passé leur temps à s'entre-assassiner, à s'entre-tuer. On les connaît. Alors là, on commence à connaître ce qui se passe dans la Bible par les annales étrangères, et notamment les annales assyriennes. Les annales assyriennes sont très précises, et on les entend parler d'un roi qui apparaît rapidement dans la Bible, mais qui est quand même là, Homère, et ça sera les Omrides, les descendants d'Homère, d'accord ? Voilà. En fait, ils vont être un temps au pouvoir, et puis écartés du pouvoir par assassinat, le dénommé Jéhu, qui paraît-il était très proche de, très pieux et très proche de Dieu, a quand même largement assassiné pour prendre la place, puis après il a été assassiné à son tour. Bon, retenez que c'est instable, et qu'on en a des témoignages au dehors, ça marche mal, et que sans arrêt, la Syrie, alors elle apostrophe Assyrie, ce royaume du Nord, cet empire du Nord qui est extrêmement puissant, vient grignoter, et rêve de grignoter au moins ce royaume du Nord, sinon le royaume du Sud. Et donc elle est tout le temps aux portes. En réalité, il semble bien que très vite, il y a eu des pactes avec la Syrie moyennant tribut. On paye tribut et on a la paix. On paye l'impôt et on a la paix. Provisoirement, jusqu'à ce qu'ils en demandent plus. Là, il faut renégocier. Voilà. Donc une histoire banale pour un tout petit pays aux prises avec un très gros qui veut le manger. Il y a eu des événements, je ne vais pas vous raconter en détail, de soulèvement de ce royaume du Nord qui s'est allié avec le royaume de Damas contre la Syrie, qui a voulu embarquer le royaume frère de Juda, qui n'a pas voulu. Enfin, il y a eu des guerres entre eux. Et de toute façon, ça a toujours très mal fini, jusqu'au jour où, en 721, les Assyriens ont décidé que ça allait bien comme ça, les révoltes, les fausses guerres, les ligues, les conspirations, on allait rayer le royaume du Nord de la carte. Et notamment la capitale Samarie, qui était relativement récente, hein, Samarie est apparue que vers 860, la capitale Samarie a été détruite. Et, comme je vous le disais ce matin, les Assyriens ont procédé à un échange de population. Donc le royaume du Nord, il ne reste plus rien au bout de 200 ans. Et ça, ça va rester comme un souvenir effroyable d'un royaume qui a disparu. Dieu aurait-il abandonné son peuple ? Alors, on s'arrange en disant « Ah oui, mais ils avaient fait sécession. En fait, c'était des idolâtres. Ils ont fait leur propre temple. Ou en tout cas, ils ont eu des veaux d'or eux aussi. » Enfin, bon, on raconte. Mais il faut expliquer pourquoi. Pourquoi le royaume a disparu et Dieu aurait-il abandonné son peuple ? Dans ce royaume du Nord, Israël, donc d'Israël, avec Samarie comme capitale, l'instabilité dynastique, les coups d'État, on pouvait constater une grande richesse économique avec des élites, des grands propriétaires très égoïstes et très jouisseurs qui donc versaient l'impôt à la Syrie et se préoccupaient absolument pas du bien-être du peuple, d'où les hurlements du prophète Amos dont je vous ai lu un passage ce matin, ça va ? Qui a essayé de rétablir la situation. Dans ce royaume du Nord, entre 735 à peu près et 721, apparaissent deux grands prophètes qui font partie du groupe des 12 petits prophètes, parce que c'est court, c'est 12 ou 13 chapitres, mais c'est quand même important. Deux prophètes importants qui se heurtent, au fond, au roi et aux grands propriétaires en dénonçant, l'un Amos, l'injustice complète et le laisser-aller de ces grands propriétaires qui fait la misère du peuple et qui fait finalement le lit des Assyriens, qui tirent de l'argent, puis qui un jour viendront tout prendre. Et l'autre, Osée, qui est au contraire le prophète de la tendresse de Dieu, désespéré par l'infidélité de son peuple. Et vous avez dans le début du prophète Osée ces chapitres magnifiques où le prophète doit vivre dans sa propre existence, ce qui arrive à Dieu, il a une femme qui est une infidèle, qui a des amants et qui se prostitue éventuellement pour de l'argent. Et Dieu lui dit, tu la récupères et tu la reprends, comme moi, je reprends mon peuple Israël. Alors on ne sait plus trop au bout d'un moment de qui on parle, du couple humain ou du couple Dieu et son peuple, mais il est à peu près clair que Osée a, comme beaucoup de prophètes, vécu dans sa vie des signes prophétiques. Et là, on a des textes admirables sur l'amour de Dieu pour son peuple. Je te fiancerai à moi dans la tendresse et dans le bonheur. Je te fiancerai dans la fidélité. Enfin, vraiment des textes sur un Dieu amoureux qui souffre de l'abandon de son peuple. Le prophète Osée est sûrement un des plus grands prophètes sur ce Dieu à la fois époux, amant et à la fin père qui aime le peuple comme son fils, avec des images très très fortes. C'est l'occasion de dire au fond qu'est-ce que c'est que des prophètes. Les prophètes, ils interviennent à partir de là comme des gens qui se dressent contre la puissance royale ou contre la puissance des grands, des dirigeants, on va dire, des dirigeants, qui soient politiques ou économiques, et qui ne sont pas là pour rappeler l'avenir. Les prophètes, ils sont là pour dénoncer et pour exhorter, annoncer. Ils dénoncent toujours deux choses qui vont toujours de pair, l'abandon du Dieu d'Israël au profit d'idoles, que ce soit des divinités ou que ce soit la richesse et les veaux d'or quelconques, hein, ou le plaisir. Et corrélativement, ils dénoncent l'injustice envers les pauvres et les petits. Et ça va toujours ensemble. Et ça, c'est aussi les deux grandes formes de la piété d'Israël. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, les prophètes sont toujours sur les deux bords à la fois. Dénoncer l'abandon du Dieu 1, dénoncer l'injustice et la maltraitance des faibles. Parce que le Dieu unique est le Dieu qui aime les faibles et les petits. Ça marche ? Ça c'est vraiment... Oui ? Alors, qu'est-ce que les prophètes annoncent, une fois qu'ils ont dénoncé ? Qu'est-ce que les prophètes annoncent ? Ce n'est pas des Madame Soleil, ils n'annoncent pas ce qui va se passer demain matin. Ces prophètes, comme je vous l'ai dit, apparaissent toujours dans l'orbite royale. En fait, venus d'ailleurs, ce sont des gens qui sont cultivés, qui ont probablement l'écriture, qui sont souvent des gens de cour. Isaïe sera un grand personnage de la cour des rois du Sud, qui sont souvent des gens de cour et qui ont donc une analyse politique de la situation souvent extrêmement poussée. Et qui donc voient bien vers quelle pente conduit tel ou tel choix politique des rois et des classes dirigeantes. À force de céder à la Syrie et de payer de plus en plus d'impôts en tirant sur la population, on va tout droit dans le mur et le mur arrive. Et donc, là, ils annoncent que si on continue comme ça, ça finira mal. Voilà. Souvent, les livres des prophètes ont été réécrits et complétés après coup. Comme ça, on est sûr qu'ils ont bien prophétisé. Mais ce n'est pas toujours vrai, parce qu'il y a des prophètes qui se trompent. Et le rôle du prophète, je vous dis, ce n'est pas de prédire. C'est d'annoncer, de dénoncer et de mettre en garde, de montrer quel serait le chemin juste, qui est souvent un chemin à la fois politique et religieux. Ils font des choix politiques, les prophètes. Et des fois contradictoires. Michée et Isaïe ne font pas les mêmes choix. Après, il y en a un qui gagne et l'autre qui perd. Ils ont une analyse politique qu'ils soumettent au fond et qu'ils font entrer dans la conception qu'ils ont du projet de Dieu. Donc, ils dénoncent ce qui ne va pas et ils annoncent que si on ne revient pas à une vue plus respectueuse des choses, eh bien, ça va tourner mal. Et dans l'histoire, ça tourne souvent mal. En tout cas, là, ça a mal tourné. Ça marche ? Voilà. Voilà pour mon royaume du Nord. Allons maintenant. Le royaume du Sud, vous voyez qu'il a vécu beaucoup plus longtemps. On l'appelle le royaume de Juda. Lui, il a deux choses à son avantage. Une capitale stable, Jérusalem. Une dynastie stable, puisque c'est encore un descendant de David qui reviendra d'exil en 520. Ou 538, on ne sait pas trop. Donc il y a vraiment une dynastie là qui est stable sur 400 ans. Et ça, ça assure un pays. Inversement, il est beaucoup moins riche, parce que ce ne sont pas du tout des grandes plaines comme en Galilée, des plaines riches, il est beaucoup moins riche que le royaume du Nord. C'est un pays de collines, de montagnes, de vagues pâturages, et où on est quand même assez pauvre. Ouais. Dans ce royaume du Nord, du Sud, qu'est-ce qui se passe? Il se passe plusieurs choses. D'abord, l'arrivée, la naissance et la montée sur le trône d'un grand roi Ézéchias, qui a été un roi qui a essayé une vraie réforme religieuse et qui est celui que le prophète Isaïe, qui était déjà à la cour de son père et qui va accompagner le règne d'Ézéchias, appelle l'Emmanuel, la prophétie d'Isaïe 7, que les chrétiens ont récupérée et que Matthieu a mis dans la bouche de l'ange qui annonce à Joseph la naissance de Jésus. La jeune, alors dans Isaïe, c'est la jeune reine, sera enceinte et elle enfantera un enfant auquel on donnera le nom d'Emmanuel. L'Emmanuel en question dans le livre d'Isaïe, c'est cet Ézéchias, qui était déjà né quand le prophète écrit, mais qui va monter sur le trône, et c'est le moment de son ascension au trône très jeune que le prophète souligne. Voilà. Donc Emmanuel, ça veut quand même dire Dieu avec nous, c'est-à-dire qu'il a lancé, il a été l'occasion d'une espérance incroyable de renouveau religieux et de survie en face de l'Assyrie qui, après avoir bouffé le royaume du Nord, avait évidemment qu'une envie, c'est de prendre celui du Sud. Comprenez bien qu'il n'allait pas s'arrêter en si bon chemin, les Assyriens. Voilà. Alors, le royaume du Sud était moins tentant parce qu'il était beaucoup moins riche. Donc ça pouvait attendre un peu. Voilà. Mais quand même, il était sur le bon chemin, celui qui va en Égypte. Donc Ézéchias, une grande réforme religieuse, un roi soutenu, encadré, suivi par le grand prophète Isaïe, homme de cour, et en 701, un événement incroyable, l'Assyrien Sennachérib, le roi assyrien Sennachérib, vient mettre le siège devant Jérusalem. Bon, donc, il a trouvé que ça... On va pas... Alors, Ézéchias avait mal joué, il n'avait pas payé l'impôt, ils essayent toujours de s'allier à l'Égypte en espérant que l'Égypte va les aider, mais l'Égypte, elle ne fait rien. On ne paye pas l'impôt, et donc, quand on ne paye pas l'impôt, on a des ennuis. Voilà. Donc, il vient mettre le siège devant Jérusalem, et là, alors, plusieurs récits, il y a des récits de négociations entre Isaïe et le délégué, l'envoyé, le porte-parole des Assyriens, à savoir... Quel est le Dieu qui l'emportera? Bon. Et il y a un texte étrange qui dit que pendant la nuit, l'ange du Seigneur est venu, a frappé le camp des Assyriens, a mis la peste, et que le lendemain matin, quand on s'est réveillé, ils étaient tous morts et ceux qui n'étaient pas morts sont repartis. Bon. C'est raconté dans le livre d'Isaïe et dans le livre des rois, de la même façon. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Or, la même histoire. Elle est racontée dans les annales assyriennes. Et là, c'est intéressant, parce que c'est là qu'on voit comment on écrit l'histoire. Les annales assyriennes du roi Sennachérib racontent la même histoire, mais alors pas pareil, pas pareil. Du côté d'Israël, c'est Dieu, l'ange de Dieu est venu, leur a collé la peste, ils sont tous morts, et on a été délivrés. Et c'est vrai qu'Israël a été, et Jérusalem a été délivrée. Ils n'ont pas pris Jérusalem, ils sont partis. Dans les annales assyriennes, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Le roi Sennachérib était en train de mettre le siège devant Jérusalem, quand ses fils à Ninive, qui est la capitale de la Syrie, se sont mis à comploter contre lui. Alors vous comprenez, Jérusalem c'est bien, mais quand même Ninive c'est mieux. Donc Sennachérib dit, Jérusalem c'est pour la prochaine fois, on rentre, on va reprendre les rênes à Ninive. Et donc voilà, vous avez une autre explication. Alors, est-ce que c'est l'ange du Seigneur qui a fichu la peste? Ou est-ce que c'est les fils de Sennachérib qui ont comploté contre lui et l'ont fait revenir au galop à Ninive pour remettre de l'ordre? On ne sait pas. Chacun raconte l'histoire à sa manière. Après, l'historien essaye de s'en sortir avec ça. Toujours est-il que Jérusalem et le royaume du Sud ont été non seulement momentanément sauvés, mais sauvés pour encore 110 ans, ce qui n'est pas rien. Alors, le royaume du Sud continue à vivre avec des bons rois et des mauvais rois, c'est selon, et avec, à partir de 630, à peu près, un tout jeune roi qui va manifester, enfin, porter beaucoup d'espérance, le roi Josias, qui va régner très longtemps, même si, régnant très longtemps, il meurt quand même autour de 36 ans, donc très jeune, hein, au combat. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce roi Josias ? Il a à nouveau entrepris une grande réforme religieuse. Et la réforme religieuse consiste à, et c'est ce que je vous l'ai dit, raconter ce matin à propos du livre de Samuel et du sanctuaire de Silo, à fermer tous les petits sanctuaires. Alors c'est un tout petit pays, hein, de ne pas y en avoir 40, mais enfin tous les sanctuaires locaux où c'était trop douteux comme culte, parce que c'était beaucoup les divinités de la nature et de la fécondité de la pluie qu'on priait, et à resserrer, ramener le culte autour de Jérusalem et du temple de Jérusalem. Alors là aussi, il y a des histoires magnifiques qui sont racontées. Josias fait aménager, embellir, réparer et agrandir le temple de Jérusalem. Et voilà que, dans les travaux, on découvre un rouleau. En cassant des trucs, on découvre caché quelque part un rouleau. Et on se précipite chez une dame, la prophétesse Ilkiyahu, parce qu'il y a... non, la prophétesse, je ne sais plus son nom à celle-là, je la mélange avec un autre. Une prophétesse, vous la retrouverez. Une dame qui est en fait une dame qui vient du royaume du Nord. Et c'est là qu'on voit bien et qu'on apprend que au moment de la déportation en 721, des gens du royaume du Nord en Assyrie, il y en a quand même un certain nombre qui sont arrivés à s'enfuir et qui se sont réfugiés au sud. Et qui ont emmené avec eux leur rouleau et leur tradition. Et donc, la prophétesse en question était une femme qui descendait de ces gens du Nord, qui reconnaît le rouleau et qui dit « Mais c'est le livre de notre loi. » Et ce rouleau semble bien avoir été un état ancien de l'actuel Deutéronome, où on voit très nettement que ça vient du royaume du Nord, que c'est une tradition de Moïse qui vient de là. Voilà. Alors, dans quelle mesure c'est une belle histoire pour mettre en valeur le retour à la loi et le Deutéronome, et on réécrit ou on remet en vigueur et on répare le rouleau du Deutéronome. Enfin, on voit bien quand même avec cette affaire qu'il y a une réforme religieuse et que participent à cette réforme religieuse des gens issus du royaume du Nord qui étaient arrivés avec leurs propres écrits, leur propre version de la loi, c'est pas exactement la même que l'Exode, et qui à ce moment-là manifestent que leur version de la loi est importante et qu'on peut l'intégrer, la repenser, la promulguer pour tout le monde. Ça marche, ça ? Voilà. Donc de l'intérieur, si vous voulez, les traditions venues du Nord ont aidé à régénérer, à reconstituer la vie religieuse au sud. Voilà, ça se passe autour des années 622-620. Et donc, il y a une vraie réforme religieuse du roi Josias, et c'est là que bientôt va apparaître le prophète Jérémie. Alors, il y a aussi les prophètes Sophonie, enfin, il y a plusieurs prophètes. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? À ce moment-là, la Syrie est en train de battre de l'aile. Le dernier roi assyrien, il s'appelle Assurbanipal, on l'a aussi appelé Sardanapal, et il y a des tableaux extraordinaires du 19e siècle, la mort de Sardanapal, où il se suicide avec tout un tas de femmes, d'or, de richesses, de victuailles autour de lui. Enfin voilà, il passait pour un roi fabuleux. En réalité, il se suicide parce que ça va très mal, il est en train de perdre le pouvoir. Parce que viennent de plus au sud, vous vous rappelez ce matin, les Babyloniens avec le fameux Nabucodonosor, qui veulent conquérir le royaume d'Assyrie, refaire l'Empire et récupérer aussi, pourquoi pas, les petits royaumes d'Israël et surtout de Juda. Ça marche ? Voilà, on change de chef, on change de roi. Ouais. Mais il y a un moment de battement où l'Assyrie est affaiblie et où Josias espère reconquérir le nord. Et il y va avec des troupes. Et ça se passe mal pour lui, il est battu et tué. Et il y a un espoir qui meurt dans l'œuf. Voilà. Donc je vous raconte l'histoire, retenez-la ou la retenez pas, mais peu importe. Il y a bien eu ce rêve un moment, après la réforme religieuse, de reconstruire un Israël plus grand et qui a avorté parce qu'ils n'étaient pas de taille. Ils n'étaient pas de taille devant les empires. Bon. Et donc, on va arriver à la confrontation, non plus avec les Assyriens qui ont perdu, Ninive est tombée, maintenant c'est les Babyloniens, c'est Nabucodonosor, confrontation avec l'empire suivant, les Babyloniens. Et ceux-là, ils sont bien clairs, ils veulent prendre le pays. Ils veulent pouvoir passer jusqu'en Égypte. Voilà. Ça prendra le temps que ça voudra. Ils le font. Ils ont déjà fait le siège de Tyr qui a duré 13 ans, et Tyr est tombé. Et ils viennent s'attaquer de plus en plus au royaume du Sud qui grignote petit à petit, petit à petit, petit à petit, jusqu'à ce qu'ils arrivent au pied de Jérusalem deux fois de suite, en 598 et puis en 595. Il y a un siège qui dure 3 ans, voilà, qui est affreux, et Jérusalem va tomber. Ça marche ? Donc, devant les assauts des Babyloniens, progressivement, le royaume du Sud, alors il y a des tas d'histoires de rois que je ne vous raconte pas, c'est compliqué comme tout, mais le royaume du Sud va perdre du terrain, une première fois en 598, pour éviter que la ville soit détruite, le jeune roi qui vient de succéder à son père accepte de partir avec sa cour à Babylone. Il se livre. Il se livre en disant « Vous ne touchez pas. Vous ne touchez pas à mon pays. Je suis prisonnier. » Et il y a une première exil, première déportation de 10 000 personnes, quelque chose comme ça. Évidemment, l'élite du pays. Et puis ça continue avec un autre, et puis les Babyloniens finissent par mettre le siège, il y a un siège de 3 ans, et puis Jérusalem est brûlée, et puis le pays, est, voilà, et il y a un nouvel exil, et les Babyloniens prennent le pouvoir. Ça marche ? Voilà. Alors, dans ce royaume de Juda, je rappelle donc qu'il vit pendant 300 ans, un peu plus. Oui, 340 ans. Une dynastie stable, une capitale Jérusalem. Je vous ai parlé donc de ce roi Ézéchias qui gagne au fait contre la Syrie, de ce roi Josias qui découvre le rouleau du Deutéronome, qui fait une réforme religieuse et qui meurt à la bataille en espérant refaire un grand Israël. Et finalement, un pays qui à nouveau est entièrement balayé et détruit avec la chute de la ville, et c'est l'exil à Babylone. Voilà. Alors, il y a eu aussi beaucoup de littérature là et des grands prophètes. Je vous ai nommé Isaïe entre 720 et 700, mais entre 615 et 600, c'est Jérémie. C'est aussi Sophonie. Et c'est aussi le moment où se mettent en place des textes comme le Deutéronome, probablement des psaumes, certainement des proverbes. Enfin, il y a toute une littérature qui naît là et qui va être emportée en exil à Babylone par les scribes qui partent avec le roi qui s'est livré. On constitue une grande littérature qu'on embarque. Comme ça, on aura de quoi faire. Voilà. Alors, je vous installe à Babylone un petit moment. Vous tenez le coup ou non ? Non ? Oui ? Parce que David était de la tribu de Benjamin, lié de près à celle de Juda. Et qu'en fait, quand il y aura les deux royaumes, celui du nord, c'est 10 tribus, celui du sud, c'est Benjamin et Juda. Benjamin étant un tout petit truc à côté de Juda. Voilà. Donc on parlera dans les évangiles encore des Judéens. Hein ? Dans les évangiles, le royaume du Nord, c'est la Galilée, la Samarie. Surtout la Samarie, la Galilée, c'est presque un autre pays. Et le royaume du Sud, c'est la Judée, qui a le nom de royaume de Juda. C'est la suite. C'est tout petit bout de pays. Ah, là, les Samaritains, c'est beaucoup plus tard. C'est vers 300 avant Jésus-Christ. Mais vous avez raison. L'origine des Samaritains. Dans les évangiles, vous le savez, un juif ne parle pas à une Samaritaine. On a une très mauvaise opinion des Samaritains. Pourtant, c'est des dieux qui adorent, des gens qui adorent le Dieu d'Israël, qui ont leur propre version de la Torah, mais qui l'ont, et qui ont un temple sur le mont Garizim, dit l'évangile de Jean. Mais les juifs ne parlent pas aux Samaritains, parce que, très probablement, peut-être, les Samaritains sont les descendants dans ce royaume du Nord, des étrangers venus d'ailleurs que les Assyriens avaient implantés là. Échange de population. Les Assyriens, ils ont pris les Israélites et les embarquer ailleurs, et ils ont remis là des gens qu'ils avaient pris ailleurs. Donc des gens qui n'avaient pas du tout la foi au Dieu d'Israël. Eh bien, parce que, par contre, parce qu'il y a peut-être eu un peu des missions, parce qu'il y a eu des liens. Est-ce que c'est à cause de cette raison qu'il y a cette haine entre juifs et samaritains, ou est-ce que c'est simplement parce qu'on ne peut pas supporter son frère et donc il faut toujours lui trouver des pouilles, hein? On donne ça, non pas comme raison, mais comme perspective historique. C'est des gens qui, dans leur ascendance très haut, venaient de populations étrangères et donc prétendument idolâtres. Il y a une question. Mais bien sûr, mais chacun prétend avoir le plus vieil exemplaire de la Torah. Non mais attendez, si les autres ils sont arrivés au 8e siècle, l'histoire des Samaritains, quand même on entend parler dans la Bible à partir du 3e, il y a eu du temps entre deux. Vous voyez, ce sont des convertis, oui, mais enfin quand vous êtes des convertis depuis 500 ans, nous on est des convertis depuis 2000 ans, pas plus, hein. Oui, ce que je veux dire, c'est quand même très flou comme argument. C'est très flou. Mais il y a toujours une méfiance par rapport à ces gens du Nord. Mais eux se considéraient comme des fidèles du Dieu d'Israël, du Dieu unique. Et donc après, il y a des bagarres, c'est nous qui avons l'exemplaire de la Torah, hein. Ils n'ont que la Torah, ils n'ont pas les prophètes. Enfin, ils ont la Torah. C'est évident, il n'y a pas de raison très claire, hein. Ça va? Bon, on s'installe à Babylone? Alors, plus pour longtemps, hein, on s'installe à Babylone, après on rentre au pays et on s'arrête. On s'installe à Babylone, donc il y en a un paquet, quelques 10 000, la cour, les gens bien, les gens savants, qui sont venus en 780, en 598, et il y en a encore un ça va comme ça? Un petit paquet, quelques milliers, qui sont venus en 587. Peut-être quelques-uns entre-temps. Enfin, les Babyloniens nettoyaient autant qu'ils pouvaient. Or, arrivés à Babylone, ils s'installent. Ils ne sont pas trop maltraités, ils s'installent. La cour et le roi et la cour sont accueillis dans l'entourage royal, ils sont même honorés. Et il y a là certainement un traumatisme extraordinairement profond, puisqu'on se retrouve définitivement sans terre. Au moins en 587, c'est fini, quand le pays est complètement pris par les Babyloniens, que Jérusalem est brûlée, que le temple est brûlé, on n'a plus de terre, il n'y a plus de roi, il n'y a plus de temple. On est quand même en terre étrangère, on n'a pas le droit de rentrer chez soi. Et donc, voilà, là se pose la question terrible, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu nous aurait abandonnés? C'est à partir de là, là je reviens à ce que je disais ce matin, mais maintenant on le rencontre dans l'histoire, qu'il y a cette immense entreprise par ces quelques scribes, prêtres, gens de la cour, de rassemblement des traditions, de réflexion sur le passé, de relecture du passé. Oui, mais c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé des trous comme ça dans l'histoire. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé quand nous étions esclaves au pays d'Égypte. Pendant quelques générations, on a failli disparaître. Mais, voilà, Dieu a entendu le cri de son peuple. Eh bien, un jour, Dieu entendra notre cri. Et donc, il y a ce rassemblement des traditions, cette mise par écrit, et certainement un repli identitaire, mais au sens là, salvateur du mot. C'est ça qui les permet de tenir face à la tentation de se fondre dans le monde babylonien, qui était un monde riche, un monde cultivé, un monde avec des grandes célébrations, un monde avec des divinités, le dieu du ciel, la déesse de la mer, des bagarres configurées entre le dieu du ciel et la déesse de la mer, enfin, des propositions religieuses intéressantes. Et on a certains qui certainement se sont inculturés. Mais il y en a un bon nombre qui ont tenu bon et qui ont au contraire reconstruit quelque chose de très marqué. Probablement que c'est là que se met en place de façon décisive le respect du sabbat, le septième jour, et des grandes célébrations religieuses, comme notamment la fête du Grand Pardon, qui a eu lieu mercredi pour le monde juif, Kippour. On crée des rites, on fait ce qu'il faut pour tenir contre. Voilà. Alors, si vous voulez, là, je vais prendre un petit peu de distance et dire, devant la question, Dieu nous aurait-il abandonné ? Qu'est-ce qui se passe ? On va avoir à Babylone une série de réponses qui vont se mettre en dialogue. Et c'est au fond ça qui va créer la Bible et ce monde tellement dialogique, tellement divers. J'essaye de les typer, hein, c'est peut-être plus compliqué que ça, mais j'essaye de simplifier. Il y a une réponse qui est celle des prêtres qui étaient exilés à Babylone et qu'on va appeler la théologie sacerdotale, la théologie des prêtres. Et on vous parlera même à propos de telle tradition biblique, la tradition sacerdotale. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ceux-là ont considéré que si le peuple est infidèle, Dieu lui est fidèle. Voilà. Dieu lui est fidèle parce qu'il a fait alliance avec nous et que son alliance est éternelle. Et dans un bon nombre de textes de la Bible, vous avez l'alliance éternelle ou perpétuelle, on traduit comme on veut, voilà, qui dure. Dieu, d'ailleurs, n'est pas seulement le Dieu d'Israël qui l'a sauvé d'Égypte. Dieu est unique et il est le Dieu créateur. Et puisqu'il est le Dieu créateur, il est capable de recréer son peuple, même disparu, non pas parce que ce peuple est un peuple bien, parce que les prêtres ont une conscience aiguë de l'incapacité humaine à être fidèle et du péché humain. Ils développent toute une théologie du péché. Mais pour l'honneur de son nom, Dieu s'est engagé et il ne va pas se dédire. Et on a des traces étonnantes de cette idée-là, dans par exemple le discours, le dialogue de Moïse avec Dieu dans Exode 32 après l'histoire du veau d'or. Donc il dit j'en ai marre, ils me trahissent, j'arrête, on les fait tous disparaître et je recommence l'histoire avec toi, dit-il à Moïse, après tout. Et Moïse répond, mais c'est pas possible, comment pourrais-tu faire ça ? Qu'est-ce qu'ils diraient les autres ? Il dirait, il les a attirés dans le désert pour les faire disparaître, mais il n'est pas fidèle, c'est pas un vrai. Et c'est avec cet argument-là que Moïse l'emporte. C'est étonnant comme présentation. Moïse qui rappelle à Dieu que s'il est Dieu, il ne faut pas qu'il se déjuge auprès des autres. Le prophète Ézéchiel, pendant l'exil, dira exactement la même chose. Il aura des textes où Dieu dira sans arrêt, « Je viens vous délivrer, vous sauver, ce n'est pas pour vous, vous ne valez rien, mais c'est pour l'honneur de mon nom. » Et en fait, on s'aperçoit que c'est le dernier espoir possible d'une humanité qui est consciente de son indignité. Moi, j'arriverai à rien. Nous, on n'arrivera à rien. On passe son temps à s'entretuer, à être infidèle, à faire n'importe quoi. Oui, mais Dieu s'est engagé. Alors donc, il ne peut pas se reprendre. C'est étonnant comme argument, mais il y a toute une théologie qui dit ça, qui se fonde là-dessus, l'alliance perpétuelle. Alors, qu'est-ce qu'il est demandé aux hommes ? Eh bien, chaque année, de faire un long chemin de repentir et de demande de pardon, de changer de cœur, et que ça se voit rituellement, et c'est le rite du Kippour. Où, évidemment, avec une conversion intérieure, il y a des rites qui manifestent que Dieu renvoie au désert le péché et le pécheur et renouvelle son alliance. Ça marche ? Et d'année en année, il faudra le recommencer. Parce que nous, on recommencera toujours à être pécheurs et infidèles. Mais le point fixe, c'est Dieu ne nous lâchera pas. Il ne peut pas. Il serait infidèle à lui-même. Il y a une espèce de truc qui s'enfonce, là, Dieu est Dieu, il s'est engagé, c'est fini, il ne peut plus. Il ne peut plus nous lâcher. C'est assez extraordinaire comme pensée. Bon, et appel. Donc, j'appelle ça une réponse cultuelle, en ce sens que c'est le culte qui va permettre au peuple de continuer à vivre dans l'infidélité ou la fidélité au Dieu toujours fidèle. Il y a une autre réponse, qui est plutôt celle des scribes, et des gens qui avaient rapporté avec eux les traditions du Nord, qui s'inscrit dans la droite ligne du Deutéronome. L'alliance n'est pas considérée comme une alliance éternelle, mais comme une alliance de suzerain à vassal, avec des engagements réciproques. Moi, dit le suzerain, je vous protège, mais vous, vous vous battez pour moi et vous faites ce qu'il faut. Voilà. Or, dans cette histoire, Dieu est le suzerain, Il est le Dieu sauveur qui a protégé son peuple et qui l'a sauvé. Mais, il faut que le peuple soit fidèle. Il faut que le peuple observe ses lois. Il faut que le peuple garde les lois du Deutéronome, et notamment ses lois d'accueil du faible, de l'immigré, de l'étranger, etc. Si le peuple se montre infidèle, Dieu a le droit de rompre l'alliance. J'appelle ça une réponse éthique, c'est-à-dire qu'elle va se fonder sur la capacité humaine à faire l'effort moral d'être à la hauteur. On parle souvent du judaïsme en disant que c'est un monothéisme, un seul Dieu éthique, qui exige de l'homme une certaine réponse morale. Ça, c'est la tradition de Deutéronomie. Ça va, vous voyez comment j'essaye de caractériser. C'est très intéressant parce que nous, on peut prendre tout ça à la fois. Donc les deutéronomistes, ils sont beaucoup moins optimistes. Parce qu'il y a quand même, ils ont derrière la tête la théologie qu'on appelle de la rétribution. Si vous agissez mal, ça finira mal. Voilà. On ne peut pas en sortir. Alors, ils modulent ça en disant, oui, mais Dieu est miséricordieux. La miséricorde de Dieu est infinie. Mais il ne faut pas pousser quand même le bouchon trop loin. Faire attention. Voilà, ça c'est l'idée deutéronomiste. Troisième réponse. Alors, je schématise, parce que les prophètes participent des deux premières, mais parce qu'Ézéchiel, par exemple, est un prêtre aussi. Mais quand même, il y a une troisième réponse, qui est celle des grands prophètes, d'avant l'exil Jérémie, de l'exil Ézéchiel et la deuxième partie du livre d'Isaïe, 40-55, qui est la réponse la plus pessimiste et à la fois optimiste. Pessimiste, le cœur humain ne changera pas. Isaïe est ferme. Une panthère ne peut pas changer de pelage. Et vous, les habitués du mal, vous feriez le bien ? Vous me faites rire. Ah, vous ne changerez pas. Impossible. Qu'est-ce que Dieu peut faire ? Eh bien, Dieu peut faire une alliance nouvelle en changeant le cœur de l'homme. Et c'est la grande proposition d'alliance, nouvelle alliance, après ça on dira Nouveau Testament, d'Isaïe, de Jérémie 31-31, je ne conclue pas avec vous une alliance comme je l'ai conclue avec vos pères, eux, ils m'ont trahi. Moi, j'écrirai ma loi au fond de votre être, je l'inscrirai sur votre cœur. Et vous n'aurez plus besoin de vous instruire, vous serez spontanément complices de ma volonté, de ma loi. Le cœur de l'homme est transformé, rendu capable de répondre à la volonté de Dieu. C'est au futur, C'est au futur. Mais c'est la grande espérance aussi d'Ézéchiel. D'Ézéchiel qui dit dans les chapitres 36, « Je vous donnerai mon esprit, j'enlèverai votre cœur de pierre, je le fendrai pour que l'amour de Dieu puisse passer, et je vous donnerai un cœur de chair. Je vous donnerai un esprit nouveau, je vous donnerai mon propre esprit. » C'est l'idée d'une recréation. Alors vous voyez qu'on s'approche vers des théologies que le Nouveau Testament reprendra. Ça, c'est la théologie du Nouveau Testament. Dieu va changer le cœur de l'homme, et l'homme, selon le cœur de Dieu, c'est ce que vit le Seigneur Jésus. On s'approche, mais on ne peut pas dire qu'on y va. On a cette proposition. Enfin, on a la proposition du Deutéro-Isaïe, qui, lui, avance un peu plus dans le temps, puisqu'il est à l'époque charnière où l'exil va se terminer et où il va y avoir la possibilité pour ceux qui le veulent de rentrer. Donc, je vous parle encore de ça et puis je m'arrête. À un moment donné pendant l'exil, au bout de 50 ans pour certains, 60 pour d'autres, ceux qui étaient arrivés en 97, les Babyloniens à nouveau tombent, sous les coups, parce que c'est tombé d'eux-mêmes. Les villes sont tombées d'elles-mêmes dans l'escarcelle du roi perse qui est arrivé et qui a été acclamé. En tout cas, il y a le nouvel envahisseur qui vient de l'Est, ce sont les Perses, avec Cyrus, puis après Darius, Xerxès, etc. Le Perse Cyrus qui arrive devant Babylone, et Babylone se rend en 539. Voilà. 39-38. Et le Perse Cyrus est un homme qui n'a pas la même conception de l'empire que les Assyriens ou que les Babyloniens. Il va avoir un empire énorme. Il va aller jusqu'en Égypte et s'avancer très loin à l'ouest. Pas la même conception. La seule chose qui l'intéresse, c'est effectivement d'agrandir ses terres, de faire rentrer des impôts, mais de laisser les populations avec leur propre façon de s'organiser, et notamment avec leur propre sentiment et expression religieuse. Alors on s'est demandé si c'était un homme religieux ou simplement un politique malin, mais Cyrus... Alors on voit que Cyrus était très intelligent. Il prend le pays qui est au nord de la Turquie actuelle, qui est... La Lydie, et qui était dirigée par un roi qui s'appelait Crésus. Pourquoi ce Crésus était riche ? Parce qu'il y avait un fleuve, le Pactole, qui roulait des pépites d'or. Donc voilà, il prend ce pays-là. Est-ce qu'il va écraser tout le monde, Cyrus ? Non, il prend le pays et il offre au roi Crésus d'être son ministre des Finances. Voilà, ça, c'est la politique de Cyrus était intelligente. Voilà. Et donc là, de la même façon, il y a un édit de Cyrus que la Bible rapporte, c'est un faux, hein, c'est un faux, on sait maintenant que c'est un faux, on a même trouvé un cylindre, mais le cylindre est aussi un faux, peu importe. En tout cas, il y a eu quand même des mesures prises par Cyrus pour autoriser ceux qui le voulaient à rentrer chez eux, moyennant obéissance au roi perse et paiement de l'impôt, et même à s'y réinstaller chez eux et à reconstruire leur lieu de culte, donc le temple de Jérusalem. Et ce Cyrus, le deuxième Isaïe, l'appelle fait dire à Dieu Cyrus mon Messie. C'est sidérant ça. Chapitre 45 d'Isaïe, j'envoie Cyrus mon Messie. En vue, évidemment, c'est toujours pour remettre en route et pour le bénéfice de mon peuple Israël. Cyrus le Messie. Bon. Cyrus était ce qu'il était. En tout cas, ils sont revenus, pas tous, il y en a qui sont restés, d'où la tradition juive très importante à Babylone. Mais les plus ardents sont rentrés par groupe. Il y a eu des retours en 538, il y en a eu en 520, il y en a eu jusqu'à 500. Et le grand prophète Isaïe, des chapitres 40 à 55 d'Isaïe, a orchestré ça et lu ça comme, d'une part, un nouvel exode. Voilà, ne vous souvenez plus du passé, je fais toute chose nouvelle, je crée une route dans le désert et mon peuple va y marcher. Il rentre, c'est un nouvel exode. On rentre vers la terre promise. Et plus que ça, il va orchestrer ça comme une nouvelle création. Dieu recrée son peuple. Dieu, ne vous souvenez plus du passé, je fais une création nouvelle. Et c'est lui qui est le prophète qui martèle de façon tout à fait extraordinaire l'unicité de Dieu. Le Dieu unique qui est à la fois le Dieu créateur de l'humanité et du monde et le Dieu sauveur d'Israël. C'est moi Dieu et il n'y en a pas d'autre. Lisez les chapitres 40 à 45 d'Isaïe. Moi je suis, c'est moi Dieu, en dehors de moi, rien. C'est magnifique et c'est la grande proclamation du monothéisme juif avec un Dieu qui n'est plus seulement le Dieu du peuple, mais le Dieu qui a créé le monde et est donc capable de le recréer. Ça marche ? Voilà. Alors, ils vont rentrer et s'installer. Et c'est là que va naître le judaïsme. C'est là que va naître vraiment le judaïsme, parce que ceux qui arrivent vont, je vous l'ai dit, négocier avec ceux qui étaient dans le pays, le peuple de la terre, pour écrire des histoires identitaires qui leur permettent de vivre ensemble. Ceux qui arrivent vont recevoir du pouvoir perse le droit de reconstruire le temple, un petit temple, pauvre, mais quand même, et le droit du pouvoir peuple, du pouvoir perse, de reconstruire les murailles de Jérusalem. Alors, tandis que certains restent à Babylone et vivent leur judaïsme dans ce qui va devenir les synagogues, les autres rentrent à Jérusalem, ils reviennent pour reconstruire le temple, pour réhabiliter le culte, et pour vivre en lien avec les autres, qui sont restés à Babylone, des rites communs qui les réunissent, les rites de séparation, la circoncision, l'observation du sabbat et les règles de pureté de la table. Plus un texte commun, qui est le texte de la Torah, rédigé définitivement et accepté par tout le monde à ce moment-là. Dans une espèce de négociation entre les différents courants, ceux qui étaient restés, ceux qui reviennent, les prêtres, les scribes, voilà. on essaye de négocier pour mettre sur pied complètement, au moment de ce retour, les livres, les cinq livres de la loi, la Torah, que peuvent garder ceux qui sont à Babylone et que vont garder ceux qui s'installent et vivent désormais à Jérusalem. Ça marche ? Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? On date de ce moment-là, l'exil et surtout le retour d'exil, ce qu'on appelle la naissance du judaïsme, marqué par, bien sûr, un culte avec le temple à Jérusalem, et ça sera effectivement les sacerdotaux, les prêtres qui auront le pouvoir, mais surtout une unité de ceux qui sont là et de ceux qui sont dans la diaspora, ce qu'on va appeler la diaspora, à Babylone et ailleurs, autour du livre, des cinq premiers livres de la Bible, et autour d'un certain nombre de prescriptions et de lois qui les identifient, circoncision, sabbat, loi alimentaire. Ça va ? Ça, ça les définit comme juifs, où qu'ils soient. Question. Séparation des tables, c'est des règles de pureté de nourriture. On ne mange pas... Alors, c'est très compliqué. Hein. On ne mange pas... Ah. Règles de pureté des aliments. On ne mange pas le sang avec la viande, on ne mange pas l'animal avec le lait parce que ça vient de la mer. Enfin, après, il y a des complications infinies, mais au fond, toutes ces complications servent à rappeler à chaque instant que nous mangeons devant Dieu et que c'est lui qui donne, et créent au fond un lien entre des gens qui, quelque part, par là, se séparent, dessinent leur identité par opposition aux autres. Et c'est là que le judaïsme va à la fois avoir ce côté fascinant, parce que c'est le Dieu unique, qui a une haute valeur morale qui n'est pas du tout la même dans les civilisations autour, et ce côté qui va quelque part devenir quelque chose de qui va révulser certains, c'est se mettre à part, être différent, on ne mange pas avec les autres, on est à part, pour manifester ce lien de tout le temps et de tous les jours au Dieu unique, mais c'est là l'ambiguïté et la difficulté. Ça commence à apparaître là de façon très très nette. Avec des débats. Parce que du coup, on a des débats dans ce courant du 5e siècle qui sont rapportés dans le livre d'Esdras et d'Éhémie, les deux fonctionnaires venus du monde perse qui viennent aider à reconstruire Jérusalem. Il faut renvoyer les femmes étrangères. Les gens du pays doivent renvoyer leurs femmes étrangères parce qu'elles sont idolâtres. Et on les force à les renvoyer quelque chose de Dieu. Et la réponse, certains pendant ce temps écrivent le petit livre de Ruth qui dit non, c'est la Moabite qui vient au contraire vous montrer qu'elle est plus fidèle que vous à la loi de Dieu d'Israël et à la fidélité au Dieu d'Israël. C'est aussi alors qu'on écrit le livre de Jonas, le prophète qui ne veut pas que les païens se convertissent. Que les païens, on est en train d'essayer de les virer de Jérusalem, les marchands païens dehors. Et le livre de Jonas montre que Dieu contraint son prophète à aller à Ninive et que Ninive se convertit. De toute façon, Ninive est détruite depuis belle lurette, donc on peut bien raconter ce qu'on veut. Et que les Ninivites se convertissent et finalement, mieux que Jonas qui reste à bouder et à faire la tête sous son ricin. Il y a des débats et on les voit bien à ce moment-là. Autre question. Oui. Alors, dire que c'est un Dieu universel, on le voit bien, les autres nations ne sont pas du tout prêtes à l'accueillir. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quand même une espèce de affirmation intra-juive de dire « Notre Dieu, c'est l'unique, et donc c'est le créateur de tout. » Les autres disent « Attendez un peu, hein, le Dieu des vaincus, c'est pas l'unique. » Voilà. Donc il y a cette affirmation qui est la foi juive de l'intérieur. Après, plus tard, lorsque effectivement il y aura les chrétiens, le judaïsme se gardera cette conviction qu'il est choisi par Dieu pour maintenir son nom au milieu des nations, si les autres risquent de l'oublier. Maintenir le nom de Dieu. Et donc, ils n'ont pas besoin de faire de prosélytisme ni d'accueillir les autres. Ils ont une mission, maintenir le nom de Dieu, qui est l'unique. Après, les autres l'acceptent ou l'acceptent pas, mais pour eux, c'est l'unique. Ça va, ça c'est... Oui ?
L'histoire Dans Deutéronomie, les scribes, c'est quoi les scribes ?
Les scribes, c'était les gens qui savaient écrire, qui étaient en fait les lettrés de l'époque et qui étaient des groupes importants à la cour royale, parce qu'il fallait des gens pour prendre des notes, voilà. Des groupes importants à la cour royale, et beaucoup de cela était rallié aux traditions venues du Nord, venant probablement de cette de famille qui était arrivée du Nord.
D'accord.
Bon, alors, je vous montre ce que sera la suite, mais la suite, on la fera en janvier. La suite, c'est de dire, désormais, Jérusalem étant, avec des murailles reconstruites, un temple reconstruit, un clergé qui va effectivement, là, officier et tout rebâtir autour du temple, mais en lien quand même avec une diaspora, c'est-à-dire un judaïsme éparpillé, il y en a en Égypte, il y en a à Babylone, il y en a un peu partout, importante. À partir de ce moment-là, on va être sans arrêt, on va vivre la vie juive, telle que je vous l'ai décrite, sous la domination de grands empires. Le premier, c'est les Perses, qui sont plutôt pour une reconstruction et qui sont une période favorable. Ensuite va venir l'empire d'Alexandre. Alexandre, ça dure 10 ans, mais après, il y aura ses successeurs qui vont se partager le pays. Et on va vivre sous la domination grecque, et là, ça se passera mal. Et enfin, on arrivera chez les Romains. Mais je ne veux pas vous parler de ça maintenant, parce que je voudrais m'arrêter au bord de la conquête d'Alexandre, alors qu'on est en monde perse, qu'on a donc écrit la loi et qu'on est en train de rassembler les corpus des prophètes, au moment où va arriver Alexandre, parce que c'est à ce moment-là que vont se mettre en place les éléments au monde juif qui vont mieux permettre de comprendre comment arrive Jésus de Nazareth et comment le monde des évangiles reflète en fait un passé juif important avec les groupes qui vont apparaître, les Sadducéens, les pharisiens, etc. Donc je remets ça à vous en parler en janvier. Rien ne vous empêche de regarder. Pour regarder, vous avez là des documents. Et pour ceux qui suivent le parcours du CIF, un accès au site qui vous a été donné via un lien qui vous a été envoyé. Il faut cliquer sur le lien, se donner un mot de passe, entrer et chercher les documents. Ça marche ? Anne, c'est ça ? Je dis. Alors, les documents se trouvent sur le site, dans quelque chose qui s'appelle la bibliothèque des cours. Voilà. Mot de passe. C'est bien clair ? S'inscrire, le site, le lien pour le site, s'inscrire, vous mettez un identifiant et un mot de passe à mon compte, s'inscrire, mon compte, identifiant et mot de passe, et vous entrez bibliothèque des cours. Et si ça ne va pas, un double bureau des pleurs sur place, sur le site, où vous allez pleurer lundi chez Anne. Et ne le perdez pas, parce qu'on met un mot de passe, on le perd aussitôt. Alors maintenant. Alors.
On a 12 tables qui. Il y a 12 tables, 13 tables exactement, qui doivent être pliées et rester ici dans le coin près du buffet. Et toutes les autres tables, vous pouvez les descendre sans les plier. Directement dans la salle de cours. Voilà. Donc on laisse 13 tables le long du mur, pliées. Et les chaises, c'est sur les chariots au fond. Voilà. Voilà, et si vous nous aidez tous ou toutes, ça va aller super vite. Merci.
Voilà, merci, on fait faire un petit travail pour vous réchauffer.